L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge Chrysler.
Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
On est parti pour la dernière de la semaine du vestiaire en ce vendredi 19 juillet 2024 à une semaine du déclenchement des Jeux olympiques de Paris. Ça s'en vient, ça s'en vient. De nombreux athlètes canadiens seront là, de nombreux champions canadiens qui seront là pour défendre leur médaille récoltée il y a 3 ans à Tokyo. Ça sera quand même intéressant. Il y a quand même beaucoup d'athlètes, on parle plus de 300 qui vont être présents, autant pour les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques qui auront lieu par la suite. Et ça sera quand même assez intéressant de suivre tout ça dans cette quinzaine qui va être lancée dès la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, bien, il y a quand même beaucoup d'activités au niveau du sport, autant local, les voyageurs qui ont 2 programmes doubles ce week-end. Il y a du golf également. On suit l'Omnium britannique qui s'est poursuivi aujourd'hui avec la 2e ronde. Et ça commence tranquillement pas vite là, à se statuer de qui est en tête, qui prend une bonne avance. Et bien, les locaux vont être contents de voir que c'est l'Irlandais Shane Lowry. Pas vraiment de la place, mais tout près. Hein. On est en Écosse, mais du côté d'Irlande, c'est tout près. Shane Lowry qui a pris les commandes de l'Omnium britannique après avoir remis une carte de moins 9 lors de la 2e ronde. Donc, il se situe à moins 7. Pour ce qui est de Daniel Brown, bien lui, ça a été un peu plus difficile aujourd'hui. Il a remis une carte de plus 1 pour baisser à moins 5. Il est à égalité avec Justin Rose qui lui a remis quand même une belle carte là, sur la 2e ronde à moins 3. Il se situe à moins 5. Pas loin de là, ben, il y a un Canadien, Corey Connors, qui a terminé à moins 1 avec un cumulatif de moins 1. Et Scottie Scheffler également, qui a remis une carte de moins 1 aujourd'hui, se retrouve à moins 2. C'est serré, mais on voit que c'est un terrain qui n'est vraiment pas facile. Et là, ben, malheureusement, il y a des têtes qui va tomber avec la coupure après cette 2e ronde. Et parmi ceux, ben, on retrouve Tiger Woods, qui se retrouve tout au bas du classement. Après avoir remis une carte de 79 hier, soit plus 8, eh bien, et aujourd'hui, il a remis une carte de 77 pour plus 6 et un cumulatif de plus 14. Donc, va rater les rondes finales pour un troisième tournoi majeur de suite. Même chose, Mackenzie Hughes qui a remis une carte de plus 3 aujourd'hui de 74 après avoir retranché 2 coups à la normale la veille. Son cumulatif de plus 1 le place dans une bonne position à l'aube des rondes finales. Il est à égalité avec plusieurs anciens champions des tournois majeurs, dont Brooks Koepka, Dustin Johnson et Colin Morikawa. Pour ce qui est de Rory McIlroy, ben, c'est pas facile non plus. Lui qui a eu toutes sortes de difficultés depuis le début de ce tournoi. Mais intéressant là, de voir, on parlait de Mackenzie Hughes, même s'il est à plus 1, il est à égalité au 13e rang. Quand on dit que c'est pas facile le tournoi d'Écosse, quand tu es à plus 1 et tu es dans le top 25, par exemple, ça prouve que c'est un tournoi qui est très difficile après 2 rondes. Il y en a qui ont complètement abandonné dès le premier tour. Ernie Els et John Daly. Ah oui, ils sont encore là, eux autres. Ils jouent encore. Ils ont remis une carte de 82 lors de la 1e ronde pour un cumulatif de plus 11. Ils sont pas là. Ils n'ont même pas joué la 2e. Il y en a quelques-uns comme ça qui n'ont pas joué la 2e ronde. C'est le cas également de Dan Bradbury, de Gunther Co., qui ont remis des cartes de plus 5, de plus 7. En fait, ils sont en train de jouer actuellement, là, pardon. Mais il y en a qui n'ont tout simplement pas joué cette 2e ronde. Tellement loin, et on retrouve là dans ses bas-fonds Tiger Woods qui est à égalité au 143e rang. Rory McIlroy, lui, est à plus 11 au 126e rang. C'est pas facile pour tout le monde, le golf. Hein? On le dira donc. Parle un peu de tennis. Lui qui va représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques poursuit son travail. Et on parle de Félix Auger-Aliassime qui s'est incliné finalement en quart de finale de l'Omnium de tennis de Gstaad alors que l'Italien Matteo Berrettini l'a défait en deux manches quand même très serrées de 7-6 et 7-6. Donc dans les deux manches, on a dû aller en bris d'égalité. Donc Berrettini, qui est quand même la sixième tête de série, a gagné pour une cinquième fois en sept duels en carrière contre Auger-Aliassime, qui était numéro 3. Un match de 2h10, ça va vraiment pas été facile. Et pour Berrettini, ben là, il devra rebondir rapidement parce qu'il va affronter le favori Stefano Tsitsipas, qui a battu Fabio Fognini. Dans le quart de finale, l'autre demi-finale va opposer l'Allemand Jan Lennard Struff et le Français Quentin Alice. Et du côté de Félix Auger-Aliassime, ben, il se rendra maintenant à Paris. Petite semaine de congé. On sera à Paris pour les Jeux olympiques. Le tirage au sort pour la compétition de tennis va se dérouler sur la terre battue à Roland-Garros et se fera le 25 juillet, soit la veille de l'ouverture. On poursuit le tennis, on parle de Raphaël Nadal qui compte disputer les Jeux de Paris. Il est en train de se préparer. Bien, lui, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Bastad, tournoi sur terre battue, après une victoire au bout de presque 4 heures de jeu. Oh, oui, 4 heures de jeu pour un 2-2-3 contre l'Argentin Mariano Navone. Il a perdu le premier set 7-6 en bris d'égalité, 7-2. Et il a gagné les deux autres, 7-5 et 7-5. Ça n'a vraiment pas été facile. Celui qui a déjà été numéro 1 pendant de nombreuses semaines est actuellement 261e mondial. Il a bénéficié d'une invitation en Suède pour préparer le tournoi des Jeux olympiques qu'il va disputer à Roland-Garros du 27 juillet au 4 août. Face à Navone, qui est 36e mondial, Nadal a semblé bien mal embarqué, battu au premier set au bris d'égalité. Mais finalement, il a été brisé à 3 reprises durant la première manche, mais il a rebondi par la suite pour aller gagner les deux autres. Ça va être intéressant de suivre ces Olympiques-là, surtout au niveau du tennis, parce que c'est la terre battue. On a un grand chelem qui se fait en terre battue, il est évidemment du côté de Roland-Garros, mais là, d'avoir les Jeux à Paris, évidemment, on choisit le terrain qui est là. Lorsqu'on a fait les Jeux olympiques à Londres en 2012, on était sur gazon. Lorsqu'on était du côté de l'Australie, bien évidemment, c'est sur une surface dure. Et là, d'être sur terre battue, bien, ça va en avantager certains, ça va en désavantager d'autres, mais ce sera très intéressant de suivre ça. Et pour Raphaël Nadal, bon, on sait que c'est le roi de la terre battue, quoique son compatriote qu'on a vu gagner dernièrement, Carlos Alcaraz, n'est pas piqué des verres également sur la terre battue de Roland-Garros. Parlons un petit peu de hockey, hein, les rumeurs. Je vous dirais, le joueur qui a eu le plus de rumeurs cet été, depuis la fin de la saison, c'est Martin Nekash des Hurricanes de la Caroline. Lui qui va devenir joueur autonome avec compensation. En fait, qui est joueur autonome avec compensation. Il y avait des rumeurs de toutes sortes. Évidemment, on l'a amené à Montréal. Quel joueur qui n'est pas sur les rumeurs qui ne s'en vient pas à Montréal, mais finalement, il ne vient jamais. On spécule, on mentionne qu'il devrait finalement demeurer avec les Hurricanes. Le directeur général des Hurricanes, Eric Talski, a mentionné jeudi qu'il n'avait pas fermé la porte à une potentielle transaction, mais il est de plus en plus probable que le joueur autonome avec compensation va rester avec les Hurricanes. Pour l'instant, on ne parle pas d'arbitrage, mais il pourra y aller plus tard cet été, évidemment, si on n'arrive pas à en venir une entente. Mais Talski a mentionné que les deux parties espèrent éviter ce scénario. Choix de premier tour des Hurricanes en 2017. Il avait signé un contrat de 2 ans et 3 millions en 2022. Entente qui est maintenant échue, qui est terminée. Il a réussi 24 buts et 53 points la saison dernière. On parle quand même de 243 points en 362 rencontres dans le circuit. Les Hurricanes ont quand même beaucoup d'espace sous le plafond salarial. Après avoir mis fin au contrat d'Evgeny Kuznetsov, on a 14 millions de disponibles. Donc, si on veut signer Nekash à long terme, puis quand même un bon contrat, je pense qu'on a de l'espace. C'est Jarvis qui devrait remplir la grande majorité de cet espace en vue de la prochaine saison, et Nekash également. Tolski confie que, mis à part la mise sous contrat des deux joueurs que j'ai mentionnés, sa formation ne devrait pas changer d'ici le début des camps d'entraînement. Le baseball va reprendre également ce soir, après la pause du match des Étoiles. On reprend tout ça et pour les Blue Jays de Toronto, ben, c'est une série de 3 rencontres à domicile face aux Tigers de Détroit. Détroit qui a 2 matchs et demi d'avance sur Toronto dans le classement général de la Ligue américaine, 47 victoires et 50 défaites. Pour ce qui est de Toronto, on parle d'un dossier de 44 et 52. Ça commence à tarder un petit peu pour les Blue Jays, mais bon, on va tenter là, d'aller chercher le plus de victoires possible. Et bien, la bonne nouvelle qu'on mentionne, c'est que le Canadien Joey Votto devrait faire ses débuts prochainement avec les Jays. Celui qui a raté tout le début de la saison 2024 après s'être blessé une cheville lors du camp d'entraînement, qui est maintenant âgé de 40 ans, devrait disputer son premier match avec les Bisons de Buffalo au niveau 3A ce soir. Donc, pendant cette période de remise en forme, il a joué 16 matchs avec l'équipe d'entraînement des Jays et de l'équipe de niveau A, avec une moyenne de 186, qui n'est pas très fort. Là. Un circuit en 53 apparitions au bâton. On sait que Votto a passé l'ensemble de sa carrière de 17 ans avec les Reds de Cincinnati avant de signer un contrat des Ligues mineures en mars avec l'équipe de sa ville, c'est-à-dire les Blue Jays de Toronto. Lors de sa première présence au bâton le printemps dernier en Floride, Votto avait frappé un circuit avant de se blesser une cheville lorsqu'il a marché sur un bâton dans l'abri. Donc, des fois, on est malchanceux. 6 fois participant au match des étoiles du baseball majeur, il avait connu une saison difficile l'an dernier. Sa dernière d'un contrat de 10 ans et 225 millions, moyenne de 202, 14 circuits, 38 points produits. Mais on parle quand même d'une moyenne en carrière au bâton de 294 et de 356 circuits. Une très belle carrière, mais est-ce que ce sera la saison de trop pour Votto? Mais je pense qu'il voulait simplement finir sa carrière chez lui avec les Blue Jays de Toronto. On demeure au niveau du baseball. Bien, il y a du baseball en fin de semaine au stade Richard Nemel. Les Voyageurs qui vont disputer 2 programmes doubles contre les Aigles de Trois-Rivières demain. C'est à compter de 16 heures. Si on se fie à la météo, ben, on espère que ça va tenir. On parle de quelques averses, mais ça devrait, on dit, cesser en soirée et dégagement par la suite. Donc, on va se croiser les doigts qu'on puisse jouer ces deux matchs-là parce que dimanche, il y a un autre programme double qui a lieu à compter de 16 heures contre les Cards de la salle. Ce double-là est un match, en fait, un double qui a été remis et qui devait être joué en juin. Parlons de cyclisme. Tour de France qui est sur le point, qui va se terminer d'ailleurs ce week-end. Tadej Pogačar qui a fait un pas vraiment décisif vers la victoire finale dans le Tour de France en remportant en solitaire la 19e étape dans la station de ski d'Isola 2000. Le Slovène qui a attaqué à 9 km du sommet pour avaler un par un les derniers échappés et signer sa 4e victoire dans cette 111e édition du Tour de France. À 2 jours de l'arrivée finale à Nice cette année, il compte désormais plus de 5 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard au classement général. Quand tu as 5 minutes d'avance et il reste déjà que 2 épreuves, ça va être difficile là, pour les autres de le rattraper. Il y a quand même l'Ontarien Derek Guy qui fait bien cette année pour le Tour de France. Il est au 10e rang cumulatif à 3 minutes 27. Ça, c'est quand même spécial. Tandis que le Québécois Hugo Hull a terminé l'épreuve en 48e position, donc de cette 19e étape. Il en reste 2. On dit qu'à moins d'un accident, le leader va remporter son 3e Tour de France après celui de 2020 et 2021 et prendre une revanche éclatante sur Vingegaard qui lui a gagné les 2 dernières éditions. Alors, ce sera quand même assez intéressant. Mais c'est quand même, là, les 2 dernières épreuves sont assez dures parce que on est dans les sommets. On monte aujourd'hui, là, c'était très difficile. On en avait 3 incursions à plus de 2000 mètres, dont une qui était ajustée à 2802 mètres d'altitude. Donc, c'est de monter. Ben, après ça, à un moment donné, on va se mettre à descendre. Donc, c'est comme ça que c'est terminé cette 19e étape, alors que Pogačar a gagné avec 21 secondes d'avance sur Matteo Jorgensen. On va à la pause. Dans quelques instants, on va parler de soccer et du tournoi des sélections régionales qui aura lieu dès lundi ici à Saguenay. On va parler avec un des responsables du tournoi qui va nous expliquer un peu à quoi va ressembler cette semaine de baseball, de soccer, pardon, du côté de Saguenay.
Arrêt de jeu. Retour en vestiaire dans quelques minutes.
À chaque fin de semaine, au hall de la Rivière-aux-Sables, nous vous invitons à venir faire un tour pour déguster notre crème molle avec une belle variété de trempages. Du côté restauration, nos frites, nos hot dogs, nos pépites de fromage et notre succulente poutine estivale seront disponibles à satisfaire vos papilles gustatives. Et bien sûr, il y aura chaque fin de semaine nos artisans sur place pour vous présenter leurs créations. Vous pourrez également y trouver des idées cadeaux très intéressantes. Les halles de la Rivière-aux-Sables, le rendez-vous estival.
Vous faites du camping? Le terrain de votre chalet est immense. Vous voulez vous déplacer sans vous ruiner? Les centres d'autonomie vous offrent maintenant des voiturettes de golf de marque Caro. Trois modèles disponibles, 4 à 6 places. Mag aux 4 roues, tout équipé pour moins cher qu'un côte-à-côte. Venez voir nos toutes nouvelles voiturettes de golf pour camping et chalet au centre d'autonomie. 690 rue des Actionnaires, Chicoutimi. 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini. Avec les centres d'autonomie, la vie continue.
Chez Kia Rolls d'Auto, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada avec le Kia Seltos 2024. Embarquez dans un Kia Seltos 2024 et profitez d'offres de location et financement dès aujourd'hui. Kia Rolls d'Auto, du mouvement vient l'inspiration.
Hé, hey, où t'as pris ça?
Mon pavé et mes murets? Ben, Bétonville Marque.
Puis ça, qui te l'a fait?
Ah, mon bassin d'eau puis ma cascade? Bétonville Marque.
Et ça, ici?
Mes marches en béton puis mes pots à fleurs? Bétonville Marque.
Non, puis ça, ton paillis de cèdre puis ta poussière de pierre? Ça aussi, ça vient de chez...
Eh oui, Bétonville Marque. Parce que Bétonville Marque, c'est tout ça et bien plus. Bétonville Marque Jonquière, 547-1265. Venez voir ça.
Entrez, c'est ouvert! Hein, wow! Tabarouette, Jimmy? Jimmy Girard de chez Hyundai du Saguenay, mon bon ami, qu'est-ce que tu fais par ici?
André, je passais dans le coin et il fallait absolument que je te transmette la superbe nouvelle, toi qui connais tout le monde.
OK, assis-toi, là, fais comme chez vous, puis dis-moi ce qu'il y a là.
Hyundai du Saguenay va recevoir plus de 88 véhicules 100% électriques de Ioniq 5 et Ioniq 6 pour pouvoir bénéficier de la subvention de 12 000 $.
Hey, la Ioniq, là, c'est pas celle-là qui a gagné le prix de voiture mondiale de l'année?
Exactement. Et en appliquant la subvention à la location, elle vous est offerte à 120 $ par semaine, 0 $ de comptant, 48 mois à la location.
Hey, c'est pas compliqué, là. Ça signifie plus d'essence, plus jamais, à 120 $ par semaine. Aïe, aïe, aïe!
VUS ou encore berline luxueuse, venez faire votre choix chez Hyundai du Saguenay, boulevard René Lévesque, Jonquière.
On parle soccer.
C'est un gros événement qui va se dérouler à compter de lundi prochain du côté de Saguenay, hein, avec la sélection, le tournoi des sélections régionales de soccer. Et pour en parler, bien, on a le chargé de projet événementiel pour le club Venturi de Saguenay, Kevin Quiblier, qui est là. Bonjour, Kevin.
Bonjour, Dominique.
Cet événement-là qui s'en vient, bien, d'abord, comment est-ce qu'il fallait participer à un processus pour, avec d'autres villes, pour avoir ce tournoi de sélection-là?
C'est une sélection qui est faite par Soccer Québec, la fédération, okay, qui demande aux agences régionales de soccer si elles peuvent participer, si elles veulent participer. Donc, ils ont proposé au mois d'octobre de l'année dernière le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'ARS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis ils sont tournés vers nous pour organiser ça conjointement avec l'ARS.
C'est une belle marque de confiance parce que, bon, on voit de plus en plus les installations qui sont faites ici du côté de Saguenay. Donc, de voir que Soccer Québec nous considère, c'est quand même flatteur.
Oui, tout à fait, ouais, parce que c'est un gros événement qui est majeur pour la région, puis pour les jeunes surtout. C'est la première fois qu'elle est dans la région en plus. Donc, on est fiers, on est excités et puis on a hâte que ça se passe et que ça commence.
Il y aura combien de joueurs et de joueuses, parce que c'est pas seulement pour les garçons, il y a pour les filles également, combien de joueurs et de joueuses qui vont être présents dès lundi prochain?
Tout à fait, on a 40 équipes et on est à 900 joueurs, à peu près 900 joueurs, wow, et joueuses de 14 ans.
Qui vont présenter donc de plusieurs calibres, donc c'est 14 ans et moins, c'est ça?
Oui, 14 ans et moins, et c'est du U14, et viennent de toutes les régions du Québec. Donc on a 17 régions, et on a la chance en plus d'avoir 3 équipes du Saguenay.
OK.
Oui.
Et là, bien, ils vont disputer un tournoi, mais quel est le but de ce tournoi-là? Est-ce qu'il y a des scouts, on peut dire, des gens qui sont là pour prendre en note, OK, tel joueur, il y a quand même un bas potentiel. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça quand on parle de tournoi de sélection?
Tout à fait, un petit peu, ouais. C'est un premier aperçu de la détection pour les jeunes joueurs. Alors là, on parle de jeunes joueurs, donc il n'y a pas encore des centres de formation, mais on peut, en effet, il peut y avoir de la détection faite sur des espoirs. Et c'est en plus, ça offre aux jeunes une première compétition d'envergure, parce que c'est l'équivalent des Jeux du Québec, mais pour le soccer.
Okay.
C'est entre tous les deux ans, entre chaque Jeu du Québec, normalement, il y a un TSR, sauf les années où on a eu la pandémie, bien sûr, ça en a coupé quelques-unes. Mais c'est quand même une vieille compétition qui date de, c'est la 16e édition cette année.
Okay.
Ça date depuis 92.
Et là, bien, on parle de joueurs, on parle de joueuses de soccer, mais j'ai vu dans le communiqué qu'on s'adresse également aux arbitres, aux officiels, parce que c'est important aussi de bien développer nos officiels.
Tout à fait, ouais. On a 46 jeunes arbitres qui sont là aussi, wow. C'est une expérience aussi, une formation, ça va être enrichissant pour eux. Il y a des ateliers de travail pour les arbitres qui sont faits, il y a des formations qui vont être faites. Donc, Soccer Québec, vraiment, met ce qu'il faut pour qu'on ait une qualité d'arbitrage pour la suite.
Là, Kevin, tu m'as dit 40 équipes. Tu m'as parlé de près de 900 joueurs. 80 matchs qui vont jouer dans une semaine. On ne fait pas tout ça au stade de soccer Saguenay. Là.
Non. On a la chance. On a 4 sites. On a 3 terrains synthétiques qui sont le Parc Saint-Jacques à Arvida. Oui. On a le stade du cégep des Gaillards.
Oui.
On a le stade de soccer à Jonquière. Et on a un dernier terrain, le terrain naturel de la baie, John Kay, qui sera utilisé.
Donc, tous les matchs vont se jouer à ces endroits. À compter de lundi, les matchs commencent lundi ou bien c'est l'accueil des joueurs à compter de lundi?
On a 6 premiers matchs lundi. C'est une plus petite journée parce que c'est la fin des sélections. On a 6 matchs qui vont se dérouler sur les 3 synthétiques à partir de 17h45.
Et s'il y a des gens qui veulent aller voir les matchs, il n'y a pas de problème, c'est gratuit pour tous.
Ils sont les bienvenus, qui viennent en masse, au contraire. Il faut supporter les jeunes qui viennent.
Comment ça fonctionnait, bon, de faire d'abriter tous ces joueurs-là, ces 900 joueurs et joueuses? Est-ce qu'ils sont dans les hôtels où on les accueille? Comment ça fonctionne?
Non, c'est un défi, en effet, parce que c'est quand même pas rien. C'est 7 jours, enfin 6 jours complets. On les accueille dans les structures d'établissement scolaire. Donc là, ils seront logés à l'école polyvalente d'Arvida.
OK.
Voilà.
Et ben, j'imagine que les parents vont suivre aussi. Ben là, pour les parents, c'est plus dans les hôtels que ça va se faire.
Tout à fait. Les hôtels, toutes les structures autour, des campings, au bon vouloir de chacun. Mais en effet, ça va amener quand même beaucoup de monde. Sur les dernières éditions, on était à peu près 1500 accompagnateurs.
Wow.
C'est toutes les familles. Ouais, c'est énorme quand même. Donc, il devrait y avoir du monde dans le coin.
Donc, on parle de retombées économiques quand même assez importantes aussi pour la ville.
Ouais. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui, c'est quand même assez important.
Donc, Kevin, on va se parler quelques fois la semaine prochaine pour faire un suivi de ce déroulement de ce tournoi des sélections provinciales et régionales, en fait, du côté de Saguenay. On rappelle, 40 équipes, 900 joueurs et joueuses de 14 ans et moins qui seront présentes pour se faire montrer, disons.
Tout à fait. Et avec la cérémonie d'ouverture le lundi à 15h au Parc Saint-Jacques.
On invite les gens en grand nombre, donc on va accueillir toutes les équipes sur le terrain.
Bien sûr.
Kevin Kiblier, chargé de projet événementiel pour le Club Venturi, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci Dominique.
Bonne fin de journée.
Merci.
Hey, c'est gros là. 900 joueurs, joueuses de 14 ans et moins. Ça, c'est sûr qu'il y a des parents qui vont venir, là, et de la famille qui vont se déplacer, qui vont venir s'installer à Saguenay, venir visiter. On se met beau, on se met belle, hein? On les accueille de belle façon pour qu'ils vivent une expérience extraordinaire. C'est pas deux jours, là. C'est une semaine. Une semaine. On arrive probablement en fin de semaine. Ça commence lundi. Donc, on rappelle Parc Saint-Jacques, le stade de soccer de Saguenay, le terrain du cégep de Jonquière et le terrain de soccer John Kane du côté de la baie. Où va se dérouler les 6 matchs à compter de lundi. Très intéressant. Puis ce que je trouve intéressant encore plus, c'est qu'on fait la place aux arbitres. Donc, on fait le développement pour les joueurs, mais je trouve tellement que du côté des arbitres, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup au niveau du hockey, évidemment, c'est un sport, mais du côté du baseball, du côté du soccer. T'sais, on a besoin d'arbitres comme ça. Donc, d'avoir ce genre de tournoi pour entourer ces jeunes-là qui veulent arbitrer, qui veulent en faire, peut-être pas une carrière, mais de s'impliquer dans l'arbitrage, tout ça tellement important. On en parle beaucoup au niveau du hockey. On sait qu'il y a l'école d'arbitrage Justin Saint-Pierre qui s'implique énormément au courant de l'été. Il y a quelques écoles un peu partout. Là, de voir qu'on aura 46 jeunes arbitres qui vont être là avec des professeurs, avec des arbitres plus professionnels qui vont dire, bon, tu sais, faire en sorte là, de ne pas oublier certaines choses importantes lorsqu'un match se déroule. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis allez voir, parce que on parle des meilleurs joueurs de 14 ans et moins de la province qui vont être réunis sur 4 terrains et qui vont tenter là, d'impressionner, disons-le, hein, quand tu as des dépisteurs qui sont sur le bord des lignes et qui regardent en disant « Oh, tel joueur, telle joueuse, un bon potentiel ». On sait que de plus en plus, il y a du calibre 3A un peu partout. On a 3 équipes de la région. Non, ça sera quand même assez intéressant. On va à la pause. Je rappelle un petit peu plus tard, on va parler de Formule 1. Il y a un Grand Prix en fin de semaine, Grand Prix de Hongrie. On en parlera avec Jean-Michel Tremblay à savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui parce que c'était les premiers essais libres et également des petits changements là, qui vont se faire, des annonces qui ont été faites au cours de la dernière semaine.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le 8 août prochain, ce sera la grande ouverture du métro Thibault, anciennement métro Sagami, dans sa toute nouvelle bâtisse. On engage. Viens porter ton CV maintenant. Le métro Thibault ouvrira ses portes le 8 août prochain. On vous attend.
Vous aimeriez faire vivre une expérience mémorable aux croisiéristes lors de leur escale à Saguenay? Vous avez de l'entregent, vous êtes débrouillard? Rejoignez l'équipe d'accueil des croisières internationales. Promotion Saguenay est à la recherche de préposés à l'information pour les autobus touristiques et aussi de préposés à l'entretien pour la haute saison des croisières internationales. Des emplois stimulants au cœur de l'action. Rendez-vous maintenant au www.promotion.saguenay.ca, section carrière, pour plus d'informations.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Les petites nouvelles qui touchent le hockey et qui sont sorties aujourd'hui sont quand même possibilité de voir une autre équipe de hockey déménager dans les prochaines années. On parle des Sharks de San Jose qui pourraient être contraints de quitter leur amphithéâtre, le SAP Center, après la prochaine saison. C'est le président de l'équipe, Jonathan Bescher, qui en a fait mention lors de son passage au balado San Jose Hockey Now la semaine dernière. Il a indiqué que l'accord de l'équipe avec la ville de San Jose pour jouer dans cet amphithéâtre va changer défavorablement pour le club en 2025 et que leur meilleure option pourrait être de quitter ce qu'on appelle le Shark Tank. Il y a un contrat qui empêche cependant les Sharks de quitter la Californie. Ça, c'est quand même spécial. C'est-à-dire, on dit, ben, on est là pour rester. Il y a un contrat. Mais on sait qu'un contrat, ça peut se déchirer. Becher, qui a également affirmé que les villes de San Francisco et d'Oakland, on a déjà eu du hockey là, pourraient être le prochain domicile de son équipe. Mais l'objectif principal est d'en venir à une entente avec la ville de San Jose. Le propriétaire des Sharks, Hasso Plattner, a été très clair. Il est un gars de la région de la baie de San Francisco. Il veut rester à San Jose, tu sais, c'est tout ça, c'est en banlieue. Et si pour une raison quelconque, le site ne fonctionne pas, mais on va envisager d'autres endroits à San Jose en premier et le reste de la région de la baie par la suite. Donc, on veut quand même rester à San Jose. Au pire de quitter, de construire un nouvel amphithéâtre, qui sait. Les Sharks qui ont fait leur arrivée dans la Ligue nationale lors d'une expansion en 1991-92, ça a été une des premières équipes d'expansion là, dans le processus là, après l'arrivée, après la fusion de l'Association mondiale avec la Ligue nationale en 1979. Il y a eu le déménagement des Flames d'Atlanta à Calgary en 81 ou 82, le déménagement des Scouts de Kansas City à New Jersey dans ces mêmes années-là. Mais quand on a parlé d'arrivée de nouvelles équipes, il y a eu San Jose en 91, il y a eu Ottawa et Tampa en 92, il y a eu Anaheim et Floride en 93. Par la suite, il y a eu quelques déménagements. On se souvient évidemment les Nordiques en 95, les Coyotes en 80, les Jets en 96 et les Whalers en 97. Puis là, à partir de 98, ben là, on a rajouté des expansions. Nashville, Atlanta en 99, Minnesota et Columbus en 2000 pour monter le club, la Ligue, à 30 équipes. Donc, dossier à suivre du côté des Sharks, mais ce serait dommage de les voir quitter la Californie. Surtout que les Sharks, c'est bon, en ce moment, une équipe qui a pas mal de difficultés. Il y a une ligue du côté de la Russie, la Junior Hockey League, qui teste pour la prochaine saison un règlement qui risque de changer considérablement le déroulement de la prolongation. On sait qu'actuellement, la prolongation se déroule à 3 contre 3, puis c'est un petit peu comme ça partout. 3 contre 3, 5 minutes. Dorénavant, on dit, puis là-bas, on va faire ça, un joueur qui, en fait, ne pourra plus retraiter dans sa moitié de patinoire en possession de la rondelle. Donc, vous voyez, des fois, là, ils sont en zone offensive, promènent la rondelle, puis là, ben, ça marche pas, bon, on revient dans notre zone. Mais ben, là, tu n'auras plus le droit de le faire. Donc, traverser la ligne rouge en direction de son gardien de but sera tout simplement interdit en période de prolongation. Il y a une première infraction qui va résulter à une mise au jeu dans le territoire de l'équipe fautive et la deuxième va se traduire par une pénalité mineure. Donc, la Ligue junior russe veut se servir de laboratoire pour la Ligue continentale de hockey qui pourra par la suite emboîter le pas en 2025-2026. Et c'est parce qu'on s'aperçoit autant dans la Ligue nationale que dans la KHL que c'est commun de voir un joueur retraité dans son territoire pour garder la possession de la rondelle et organiser une meilleure entrée de zone. Sauf que la stratégie tue le rythme de la prolongation. Souvenez-vous, lorsque c'est arrivé le 3 contre 3, c'était spectaculaire, c'était vite. Là, on gagne du temps. On gagne du temps, puis ça commence à devenir redondant. On sait que lors de la dernière réunion des directeurs généraux à Toronto au mois de novembre dernier, la Ligue explorait de nouvelles possibilités pour la prolongation à 3 contre 3, mais aucun changement n'a été découlé aux dernières nouvelles. Mais est-ce que ce changement pourrait être favorable? Je trouve ça quand même intéressant. Ça pourrait aller plus vite et on pourrait en faire un dénouement plus rapide au lieu d'aller en tir de barrage par la suite. Donc, c'est des petites nouvelles qui sont quand même assez intéressantes, qui touchent un petit peu la Ligue nationale de hockey. On est en pause, évidemment, mais ça n'arrête jamais. Hein? On sait que ça n'arrête jamais. Avez-vous vu ça, les vidéos qui sont survenues cette semaine et la semaine dernière de l'homme fort Matt Rampe, des Rangers de New York? Lui, il a impressionné comme nouveau venu cette année dans la Ligue nationale. Un gars qui n'a pas peur de lâcher les gants, quand même féroce, jusqu'à temps qu'il rencontre le Québécois Mathieu Olivier des Blue Jackets de Columbus qui s'est fait brasser un peu le pommier. Mais lors des dernières semaines, des derniers jours, on l'a vu se pratiquer et recevoir des leçons de combat de Georges Larac, l'ancien dur à cuire des Oilers, des Pingouins, du Canadien, et convaincu que les leçons de combat qu'il a offertes au robuste attaquant des Rangers, Matt Rampe, vont lui donner des résultats plus que probants lors de la saison à venir. Larac qui est revenu sur les enseignements qu'il a offert à Rampe. Puis on le voyait à l'entrée de se pratiquer, de le tenir et de donner des coups. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est Larac lui-même qui serait entré en contact avec Rampe il y a quelques mois, après avoir regardé les premiers combats du patineur de 23 ans. Puis il s'est dit, regarde, pour un gars de 6 pieds 8, tu te fais beaucoup trop frapper, c'est ce qu'il disait. T'es grand, t'as une longue portée, c'est pas normal que tu te fasses frapper comme ça. Je vais te donner des techniques. Alors, on a des techniques, on risque de le voir lâcher les gants, mais on va le dire, là, je trouve ça un peu hypocrite. Je trouve ça un peu hypocrite de Georges Larac qui mentionne que les combats, j'aurais jamais dû me battre dans ma carrière, puis les combats n'ont plus leur place dans la Ligue nationale. Hey! tu viens d'en pratiquer un pour qu'il devienne probablement le meilleur bagarreur de la Ligue. Fait que tu es en train de dire que la bagarre a toujours sa place dans la Ligue nationale, dans le hockey en général. Parce que sinon, tu ne l'aurais jamais aidé. Si tu l'as vu, tu as dit « Colin, il manque de technique, je vais y en donner. » Tu n'étais pas obligé, là. Puis on mentionne que c'est toi-même qui as affaire. Donc, avoue donc que les bagarres sont encore nécessaires dans le hockey professionnel, qu'il y en a toujours eu, qu'il va encore en avoir. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais des Matt Rempe comme ça qui... Lui, là, probablement, s'il ne savait pas se battre, il n'aurait probablement pas fait la Ligue nationale. Capable de jouer au hockey, on dit que c'est un bon joueur, il a un potentiel. Mais en plus, il est capable de lâcher les gants à 6 pieds 8, disons que ça aide. Mais viens pas dire que les bagarres n'ont plus leur place dans la Ligue nationale de hockey, s'il vous plaît. Parce que la crédibilité va en prendre pour son coup, ça c'est sûr et certain. Mais ça sera intéressant de le voir, entre autres contre Mathieu Olivier, c'est sûr qu'il y aura un combat revanche cette saison. Mais des gars comme Ryan Reeves, des Maple Leafs de Toronto, de Curtis McDermott, des Devils du New Jersey, ça sera intéressant donc de voir tout ça pour ceux qui aiment évidemment le jeu un petit peu plus robuste. Il est 16h07 dans quelques instants. Oh, on va parler de Formule 1. On se prépare pour le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu en fin de semaine. De tout ça avec Jean-Michel Tremblay.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Tu fais de la mécanique en soirée ou le week-end, peu importe le moment, Pièces d'auto Sainte-Geneviève, c'est le seul ouvert 7 jours sur 7 et jusqu'à 21h en semaine. Pièces d'auto Sainte-Geneviève, Alma, Jonquière, Chicoutimi-Nord et Labbé.
Bonne nouvelle, vous êtes en vacances? Pas de souci, le resto Salé Sucré ne prend pas de vacances et est ouvert durant toutes les vacances de la construction. On est ouvert et on vous attend, le resto Salé Sucré, 1958 rue Davis, secteur Arvida. Que c'est bon!
Chez Tôle du Royaume, nous avons les meilleurs prix parce que nous sommes les seuls à fabriquer du revêtement d'acier dans la région. Exemple, besoin de revêtement d'acier pour toiture et mur extérieur, 4 couleurs de disponibles, feuilles de 8 pieds à 36 $ ou 1,50 $ du pied carré. Économisez de l'argent, achetez du fabricant. Tôle du Royaume, 1200 boulevard du Royaume, voisin du centre de liquidation du travail.
Les voyageurs, une invitation de Jean Dumas-Saguenay Mitsubishi qui vous offre un vaste inventaire pour livraison immédiate avec la meilleure garantie de l'industrie. Avec Jean Dumas-Saguenay Mitsubishi, tracez votre voie de la bijouterie au rubis, place du Royaume, 30 ans d'expérience et de service après-vente, de spécialité radiateur, pneus et mécanique, 50 ans de fidélité, de le beau vitre d'auto, jamais plus de problème pour réparation ou changement de vitre d'auto, des dépanneurs-chefs Maestro, le chef de file des dépanneurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Prévaction, la mutuelle en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Un week-end déterminant attend les voyageurs et ça débute samedi dès 16h avec un programme double contre les Aigles de Trois-Rivières. Des matchs à ne pas manquer. Les voyageurs, la force du Nord.
Vous aimeriez vous débarrasser de vos maux de dos, mais vous êtes découragé après plusieurs tentatives? Si vous souffrez toujours de douleurs au dos, au cou ou d'engourdissement malgré les bons soins reçus, peut-être que vous souffrez d'arthrose vertébrale ou encore de blessures à vos disques. Et si c'est votre cas, les docteurs de la clinique Neurodisque peuvent vous aider à mieux comprendre ainsi qu'à mieux soigner votre condition. Prenez rendez-vous maintenant au 418-543-1113 pour un examen complet de votre condition actuelle avec les docteurs de la clinique Neurodisque et donnez-vous la chance de recommencer à vivre pleinement.
La chronique F1 avec Jean-Michel Tremblay, une présentation de location de chalet Habitat Boréal et de la microbrasserie Opéra qui vous invite à écouter le podcast Le Paddock.
Course automobile.
Grand Prix de Hongrie en fin de semaine. On est rendu à la quoi? 11, 12, 13e tranche du... On n'est pas rendu aussi loin que ça. On va demander justement à Jean-Michel Tremblay où on en est rendu dans ce championnat 2024. Jean-Michel, bienvenue.
Hey, ça fait plaisir. Écoute, Dominique, on a déjà passé la mi-saison. 13e Grand Prix en fin de semaine du côté de la Hongrie. Donc, pour une saison record de 24 Grand Prix, ça passe quand même assez vite. Hein?
C'est assez surprenant, effectivement.
C'est ça, on est déjà rendu là. Puis écoutez, lorsqu'on va tomber à la pause estivale à partir de la semaine prochaine, donc une fois que le Grand Prix de Belgique sera terminé, on va déjà avoir 14 épreuves qui vont avoir été complétées avant une pause de 3 semaines. Donc après ça, on devrait avoir un blitz quand même très intéressant de 10 courses qui vont rester à l'année. bien hâte de voir où est-ce qu'on va être rendu en termes de championnat des pilotes, de championnat des constructeurs, parce qu'avec, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans les derniers Grands Prix, le fait aussi qu'on ait 6 vainqueurs différents dans les 12 derniers Grands Prix. Pour vrai, je pense qu'on a été, après un début de saison, où est-ce qu'on s'est dit, bah, ça
va pas encore
une année Red Bull et Verstappen. Heureusement, les ingénieurs de McLaren, de Mercedes et de Ferrari ont travaillé fort pour être en mesure de rattraper une très bonne partie de la performance qu'on avait en déficit par rapport à Red Bull. Là, je m'avance peut-être un peu vite, mais chez Red Bull, est-ce qu'on commence peut-être déjà à voir le fait qu'Adrian Newey ne travaille plus sur la RB20 depuis quelques mois aussi? Depuis qu'il a annoncé son départ, on l'a tassé complètement des opérations, ce qui est tout à fait normal,
ben oui,
bien sûr, étant donné qu'on ne sait pas s'il va partir à la retraite, on ne sait pas s'il va s'en aller avec une autre écurie. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Formule 1, lorsque vous terminez premier, vous êtes handicapé dans les heures de soufflerie et dans les heures de simulateur aussi qu'on donne pour le développement de la voiture. Donc, c'est quelque chose qu'au début, bon, on ne voyait pas trop paraître chez Red Bull, mais avec la compétition qui est forte derrière comme ça, ça veut dire que Mercedes, McLaren et Ferrari disposent de plus de temps que Red Bull pour améliorer les performances de leur voiture. Donc, on commence peut-être à voir la maturité ou la fin du fameux concept de Red Bull qu'on a introduit en 2022. Et ça, pour le grand plaisir, dans le fond, des spectateurs et des fans de Formule 1.
Bien sûr, absolument. Et là, on se retrouve sur le circuit de Hungaroring, tout près de Budapest, en Hongrie, un circuit qui existe depuis les années 80, qui est quand même assez intéressant parce que c'est un circuit court et quand même assez lent. Qui peut être avantagé en ce moment quand on regarde là, les 20 voitures sur le plateau? Ça avantage quelle sorte de voiture, un circuit lent avec beaucoup de chicanes?
Mais comme tu l'as mentionné, c'est un petit circuit, hein, donc 4,3 km. On a 14 virages, une seule zone de DRS qui est sur la petite ligne droite de départ-arrivée. Écoutez, si on regarde un peu l'avis des experts, on semble dire que ça pourrait être un circuit qui pourrait profiter à Mercedes. Donc après deux victoires qu'on vient d'avoir donc du côté de l'Autriche et de la Grande-Bretagne, et on sait que c'est un circuit où Lewis Hamilton a gagné tellement de fois et a eu tellement de fois la pole position. Donc, on semble dire que ça pourrait être intéressant pour Mercedes. Même l'année passée, où est-ce que la Mercedes était loin d'être au niveau de la Red Bull, c'est un des circuits où la Red Bull avait connu un petit peu plus de difficultés. Mm-hmm. Je crois qu'Hamilton avait décroché la pole avec 3 millièmes, là, quelque chose comme ça devant Max Verstappen l'année passée. Donc, c'était quand même vraiment une très belle course. Mais ce que les experts mentionnent, c'est vraiment que ça pourrait avantager Mercedes en fin de semaine. Donc, ils sont vraiment sur une bonne lancée. Et en plus, en fin de semaine, j'ai bien hâte de voir. Là. On a eu les premiers essais aujourd'hui, mais les écuries travaillent sans relâche. On a la FIA aujourd'hui qui a sorti bien sûr le document qu'on présente à chacune des courses pour indiquer un petit peu les mises à jour ou les nouvelles pièces qui ont été apportées par les écuries. Et ça a travaillé fort chez certaines écuries. On voit que chez Red Bull, Max Verstappen pressait son écurie d'accélérer peut-être le rythme d'introduction des nouvelles pièces. On en a 5 en fin de semaine chez Red Bull. Par contre, c'est juste Verstappen qui va en bénéficier. Ah. Donc, ça n'aide pas notre ami Sergio Pérez
qui lui, là, depuis sa prolongation de contrat, là, c'est difficile.
Non, ça va pas bien. Si tu veux, on prendra peut-être 2 minutes pour oui, l'ami Sergio tout à l'heure. Donc, dans les écuries qui ont amené aussi beaucoup de choses en fin de semaine, ben, en fait, il y a Red Bull et les deux autres qui ont amené encore plus d'évolution, c'est du côté de chez Aston Martin. Donc, on a 7 nouvelles pièces en fin de semaine. Et du côté de chez Kick Saber aussi, qui, eux, n'en avaient pas vraiment eu beaucoup cette année. Puis écoutez, c'est sûr que c'est seulement des essais. Mais ce matin, en première séance d'essais, Joe Guan Yu a quand même fait 5e, chose qu'on ne voit pas souvent.
Non.
Et Kick Saber n'a pas de points encore cette saison. Donc, peut-être, est-ce que c'est
en fin de semaine? Est-ce qu'on pourra avoir espoir en fin de semaine?
Ben quand même, en deuxième séance d'essai libre, Valtteri Bottas s'est fait quand même le 11e temps. Il était quand même seulement 67 millièmes de Fernando Alonso. Donc, c'est pas grand-chose. En qualification, il pourrait peut-être avoir des choses intéressantes. Et aussi, en fin de semaine, l'élément qui est important à noter, c'est la température. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de température de piste de 50 degrés. Il me semble que ça fait longtemps qu'on
a fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Effectivement, ça fait longtemps. Normalement, c'est où et quand qu'on avait du 50 degrés? Bien, c'est sûr que dans le désert,
dans les dernières fois qu'il avait fait chaud comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année passée, il y a des pilotes qui avaient eu des malaises.
Oui.
Lance Stroll, après la course, avait dû être amené à l'hôpital. Il y avait Logan Sargeant qui n'a pas été capable de finir la course. Et d'ailleurs, je vais faire du pouce là-dessus. Tout à l'heure, j'étais en train de lire que la FIA veut tester un genre de système de climatisation. Là. Pas bien sûr comme ceux qu'on a dans nos voitures, mais qui pourrait être installé sur les voitures seulement quand la FIA, par exemple, pourrait décréter que, par exemple, c'est une course avec des chaleurs extrêmes. Donc, vraiment, un système qui permettrait d'amener de l'air refroidi, mais vraiment à l'intérieur du cockpit.
Ah, c'est intéressant.
Parce que cette année, on a réagi en voulant aider un petit peu les pilotes. Je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être sur les devants des véhicules, mais toutes les voitures ont un trou vraiment au bout du museau pour amener de l'air frais à l'intérieur de l'auto, mais c'est pas assez.
Okay.
C'est pas assez avec qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, on voudrait vraiment regarder pour un autre système pour bien sûr que les pilotes puissent. Parce que c'est quand même, oui, c'est des athlètes, mais passer une heure et demie comme ça dans une voiture où est-ce qu'il fait plus de 50 degrés dans
une
combinaison anti-feu, c'est sûr. C'est des humains, hein, ça.
Ben oui.
On a tous des limites, là. Donc ça fait partie des choses vraiment intéressante. Donc, tout ça pour dire qu'en fin de semaine, on est dans les 30 degrés et plus. On a même utilisé le terme « fournaise » dans les articles de presse aujourd'hui pour dire comment qu'il faisait chaud du côté de la Hongrie. Donc, ça va être intéressant de voir ça aussi. Donc, il y a des voitures qui vont réagir mieux, il y a des voitures qui vont réagir moins bien aussi.
Une chaleur comme ça, des 30 degrés, des températures 50, puis j'ai même vu qu'il frôlait les 60, la mécanique, et surtout sur un circuit où accélère, freine, les freins, le moteur et tout ça vont être grandement affectés.
Oui, bien, c'est sûr que tout va être sollicité. Donc, vous allez voir fort probablement en fin de semaine des espèces d'ouïes là, qu'on a toujours sur le côté du capot moteur. Donc, dépendamment de la température et tout. Donc, des fois, on va en avoir plus, des fois, on va en avoir moins. Donc, ça, c'est fort probablement, c'est la chose la plus importante que les ingénieurs ont travaillé pour en fin de semaine. Et même du côté de chez Red Bull, on est arrivé avec quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, là, on avait sur le capot moteur les espèces de gouttières un peu à la Mercedes en 2023.
Oui.
On est arrivé avec ce concept-là en début de saison. Et là, pour la Hongrie, on les a enlevés. Donc, on est arrivé avec un nouveau capot moteur. Mais l'ingénieur en chef, l'aérodynamicien chez Red Bull, nous mentionnait que... ça va dépendre, en fait, en fonction du circuit qu'on va aller.
Okay.
Donc, nous, ils ont jugé, eux, que pour le circuit de la Hongrie, qui était vraiment un petit circuit comme ça, c'était mieux peut-être d'aller dans une configuration un petit peu plus classique. Parce qu'il ne faut pas oublier que non plus que Mercedes et McLaren, qui sont en forte remontée par rapport à Red Bull, ont un capot moteur un petit peu plus conventionnel aussi. Donc, fort probablement que même si on est en position beaucoup moins dominante qu'avant, les ingénieurs regardent aussi à gauche et à droite qu'est-ce qui se passe chez la concurrence. Donc, en Formule 1, c'est ça. Tout le monde s'inspire de tout le monde.
Oui.
Mais des fois, c'est dans les petits détails. On peut essayer de copier une pièce, mais s'il y a un millimètre de plus que celle du concurrent, ça se peut que la pièce ne fonctionne pas du tout. La Formule 1, c'est un tout et ça commence avec l'aileron avant. Puis, si vous me permettez, je peux vous introduire peut-être à un petit sujet aussi qui fait polémique depuis quelque temps en Formule 1, c'est la flexibilité des ailerons avant. Donc, c'est quelque chose qui... depuis Monaco, hein, où est-ce que Mercedes a introduit son nouvel aileron avant, on a commencé, surtout chez Red Bull, à questionner un peu la FIA par rapport à la réglementation. Du côté de la FIA, on a dit, oui, sur les caméras embarquées, on voit qu'il y a de la flexibilité. Par contre, il y a des tests de résistance avec des poids qui sont faits avec la FIA et toutes les pièces et tous les ailerons les ont passés. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour peut-être préparer l'avenir, parce que cette année, on n'a pas l'intention de rien changer de ce côté-là. Mais on voudrait, à partir de, je crois que c'est la première séance d'essai libre au prochain Grand Prix de Belgique, on installerait des caméras, mais qui ne sont pas les angles de caméra normalement qu'on voit pour la télévision.
Okay.
Et le système est quand même bien fait. C'est qu'on veut installer des espèces de points fluo sur, par exemple, deux parties de l'aileron avant pour voir si avec le vent, par exemple, l'aileron ou le point fluo qu'on va mettre sur l'aileron va se déformer. Donc, on va prendre des mesures et ça nous permet de bien voir si effectivement l'aileron se déforme trop. Et là, on veut prendre vraiment des leçons peut-être pour l'année prochaine. Mais là, on a bien dit que pour cette année, on n'a pas l'intention de rien changer de ce côté-là. Mais c'est sûr et certain que c'est tellement... La concurrence est tellement forte là, que tout est scruté au millimètre près. Tout le monde se regarde. On essaye de trouver un point à gauche, à droite. Donc, ça a toujours été ça, la Formule 1. Je pense que c'est pour ça qu'on aime ça. C'est que c'est les meilleurs ingénieurs au monde qui mettent leurs idées les plus folles en production comme ça sur les voitures.
Il y a eu encore quelques changements, quelques annonces qui ont été faites au cours de la dernière semaine et ça a touché plus précisément l'écurie Haas. Nico Hülkenberg qui a reçu en fait la confirmation qu'il ne reviendrait pas avec l'écurie l'an prochain. Et là, bien, les rumeurs veulent qu'Esteban Ocon quitte Alpine pour s'en aller chez Haas. C'est quoi les dernières rumeurs là-dessus?
Ah, ben écoutez, c'est encore Carlos Sainz qui détient la clé de
oui,
tout
ben
le
oui,
jeu
c'est
de domino,
ça. Parce que lui, il est en ce moment sans volant l'an prochain. C'est Lewis Hamilton qui prend le sien.
Effectivement. Et plus Carlos Sainz attend, ben plus il y a des écuries qui s'impatientent aussi. Parce que c'est, je le comprends, lui, de vouloir se dire « Bon, mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi l'année prochaine? » Mais en même temps, il retarde tout le monde. Puis comme tu viens juste de le mentionner, bien, cette année, on a annoncé à Kevin Magnussen qu'il ne serait pas de retour chez Haas l'an prochain. Est-ce qu'une autre écurie va vouloir peut-être de lui? Honnêtement, j'en doute beaucoup. On sait que depuis le début de la saison, c'est pas facile pour lui à accumuler quand même beaucoup de points d'inaptitude sur sa licence F1. Donc, il n'était pas grand-chose aussi de peut-être être suspendu pour un Grand Prix. Donc, est-ce que c'est intéressant pour une équipe? C'est quand même pas un pilote qui est très jeune non plus. Donc, moi, personnellement, je crois pas qu'il y ait un avenir en F1 pour Kevin Magnussen. Et du côté de Ocon, on sait qu'après le Grand Prix de Monaco, où est-ce qu'il y a eu l'accrochage avec son coéquipier Pierre Gasly, on nous dit que c'est pas ça qui a déclenché les choses, mais on a annoncé qu'Ocon et Alpine se séparaient aussi pour la saison 2025. Et là, ben, c'est certain que du côté d'Esteban Ocon, on se cherche un endroit pour piloter. Hein. On veut pas, quand on est en F1, on veut y rester. Plusieurs destinations aussi qui ont été évoquées pour Esteban Ocon. On a même eu les commentaires cette semaine du patron de chez Williams qui dit « Oui, Esteban est venu visiter l'usine. On a voulu regarder un peu plus si c'est un candidat qui pourrait être intéressant pour nous. » Au niveau talent, oui. Par contre, ce serait au niveau de la taille de Esteban Ocon qui poserait problème parce qu'on le sait qu'en Formule 1, c'est tellement pointu.
Oui.
Donc là, ce qu'on a testé, c'est qu'on a vu que ce serait un petit peu trop grand puis peut-être un petit peu trop de grosses charpentes justement pour les dimensions de la voiture parce que Lewis Hamilton c'est un petit pilote donc il y a plein de pilotes qui sont tout petits puis c'est normal, plus le pilote est petit moins il est pesant, plus ça va rentrer dans la performance aussi puis ça donne plus de liberté aux ingénieurs pour pouvoir dessiner l'auto aussi, fait que quand on tombe avec des plus grands pilotes comme Esteban Ocon puis tu te rappelleras peut-être plus à l'époque Alexander Wurz. Donc ça, c'était pas quelqu'un qui rentrait dans toutes les voitures. Donc on a dit, oui, on aurait aimé ça, mais malheureusement, Ocon, physiquement, ça ne fit pas avec notre concept de voiture. Donc, commence à lui pas mal juste à rester du côté de chez Haas. On l'avait peut-être pressenti aussi du côté de chez Audi. D'ailleurs, hein, Audi attend après Carlos Sainz.
Ouais, c'est vrai, Audi, il ne faut pas épargner ça.
Ben oui, mais tout le monde attend après Carlos Sainz, c'est ça qu'on mentionnait tout à l'heure. Fait que j'ai l'impression que Carlos Sainz, le problème qu'il y a présentement, c'est que Mercedes tarde à annoncer que c'est le jeune Antonelli qui va remplacer Lewis Hamilton en 2025. Fait que lui se dit, ben écoutez, si j'ai la moindre chance de pouvoir piloter, pas pour une des trois pires écuries de fond de grille, je vais attendre jusqu'à la fin. Parce que présentement, ce qu'on essaie de faire avec le jeune Antonelli qui est en Formule 2 et qui connaît pas une saison du tonnerre, faut être bien honnête, là, malgré son grand talent, c'est sa première saison, mais c'est pas extraordinaire au moment où on se parle, donc c'est peut-être ça qui fait hésiter un petit peu Mercedes. Écoutez, on l'a fait rouler à Imola avec la voiture de 2021. On lui a fait tester récemment la voiture de 2022, puisqu'on peut, on peut faire tester des F1 vieilles de 2 ans à des pilotes comme ça pour faire des essais. Mais on tarde encore à prendre notre décision. Fait que moi, je suis pas mal convaincu que c'est ce qui empêche Carlos Sainz de prendre sa décision. Écoutez, il doit se dire, si j'ai une chance la plus mince qu'elle soit de pouvoir piloter pour Mercedes, qui est en pente très ascendante, là, donc cette année, c'est intéressant pour un pilote de la trempe de Carlos Sainz de vouloir s'en aller dans une écurie comme ça, surtout quand vous partez de chez Ferrari. Hein, on veut pas partir du haut du classement vers le bas de classement. Donc, c'est vraiment lui qui retarde tout. Puis, à part de ça, bien, il y a quand même la place de Daniel Ricciardo aussi qui est disponible. Faut pas l'oublier. Ricciardo n'a pas encore été confirmé.
C'est vrai.
La semaine passée, Red Bull ont testé le jeune Liam Lawson aussi avec la RB20. On se souvient que Daniel Ricciardo, lorsqu'il avait pris la place de Nick DeVries, avait aussi fait un test chez Red Bull. Donc, il doit peut-être être stressé un peu aussi, Ricciardo, de ce côté-là, parce qu'il n'y a rien de concluant pour lui pour l'an prochain. Donc, en gros, les places qui restent présentement de libre, c'est chez Alpine. Et même Pierre Gasly, il dit, écoutez, moi, j'ai parlé à Carlos, je lui ai vanté un petit peu ce qui s'en vient dans le futur avec notre écurie. Donc, j'ai fait ma part pour essayer d'attirer Carlos Sainz chez Alpine, à voir si ça va fonctionner. Donc, il y a un baquet de libre là. Il y en a un chez Haas. Il y en a un, bien sûr, chez Mercedes, un chez RB, un chez Sauber et un chez Williams. Donc, il reste encore beaucoup de baquets à combler. Mais c'est clairement Carlos Sainz qui va... Je pense que quand Sainz va signer, selon moi, après ça, ça va s'enchaîner très rapidement sur les autres baquets qui sont disponibles et on devrait être fixé assez vite là-dessus.
Alors, on va surveiller ça, évidemment, dans les prochaines semaines. On va se concentrer sur le Grand Prix de Hongrie qui a lieu ce week-end, évidemment, RDS qui diffuse les qualifications demain matin. Et la course, toujours dans les heures habituelles, on est en Europe?
Oui, ben c'est ça. Là. Donc, du côté de la qualification à 10h, la course à 9h, donc ça ne change pas beaucoup dans la manche européenne. Donc, ça va se poursuivre encore la semaine prochaine avec la Belgique. Après ça, il va nous rester, bien sûr, Italie, Pays-Bas. Puis après ça, ben, on va partir outre-mer pour le reste de la saison. Donc, bien hâte de voir dimanche qui va remporter ce Grand Prix-là.
Jean-Michel Tremblay, merci beaucoup. Bon week-end.
Hey, merci, au revoir.
Donc, le Grand Prix de Hongrie, il reste un Grand Prix, en fait deux Grands Prix, celui-là et l'autre par la suite, avant la pause qu'on a maintenant là, de 3 semaines, où on touche pas aux voitures, les mécanos retournent à la maison, en profite, relax, ça fait du bien. Et évidemment, bon, on aura tous les détails avec Jean-Michel Tremblay. Avant de quitter le vestiaire et de s'en aller pour le retour, on s'en va au téléphone. Oui, bonjour.
Hey, bonjour, monsieur.
Oui.
Question tantôt, j'entendais parler des nouveaux règlements de la Ligue nationale, les shooters, des présents de gars. Moi, puis toi, là, Dominique, comment ça te prend d'année pour gagner 900 000 piastres US par année? Tu sors de la Ligue junior majeure du Québec, tu donnes 900 000 le contrat de 3 ans, tu es repêché. Tu joues le mot du shooter une période au complet. S'il en faut deux, il en faut deux. Ça va être la publicité, ça va être bon. T'arrêtes pas de pleurer. Moi, je trouve que c'est une gang de pleureux, là. Excuse-moi, là, je peux être méchant, mais 5, 7, 8, puis 12 millions par
ouais,
année,
mais,
là.
Monsieur, il n'y a pas un joueur qui pleure en ce moment, là.
Non, il n'y a pas un joueur, mais il faut pas trop que tu le en mettes, là.
Ben, là... Je sais pas quoi répondre. Sérieusement, là, moi, ben non, c'est parce que c'est pas la Ligue nationale. La Ligue nationale n'a amené aucun nouveau règlement. Là c'est le junior du côté de la Russie qui veut rendre les prolongations un peu plus intéressantes. Parce qu'on s'entend, les prolongations 3 contre 3, c'est intéressant, sauf quand ça commence à tourner en rond. Puis finir un match en fusillade, je sais pas ce que Paul.
C'est très là, mais c'est ton là. Mais je te parle des pareil comme toi, puis moi, on est des beaux travailleurs, tu sais, ils arrivent là, ils saignent. Ils ont 18 ans, ils donnent 900 oui. 000 US.
Mais c'est ça le sport là. Professionnel, monsieur. C'est ça le sport professionnel.
Je sais. Mais qui joue la période de sur-terre,
c'est bien. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font.
Oui, c'est ce qu'ils font, mais qui joue pas à tir de barrage puis à 3 contre 3, une période de sur-terre.
Non, monsieur, pas en saison. Ça va être trop long. Ça finira plus. Là.
C'est bon. Merci, monsieur.
Merci.
Très l'émission.
Merci.
Merci.
Bonne fin de journée. Prolongation en série, ben c'est normal qu'il faut que ça se décide comme ça. Mais si on se décide de faire des prolongations à plus finir en saison, de toute façon, il va, à 3 contre 3, il va finir par avoir un but, je vous dirais, en l'espace de 10 minutes. Mais de dire, Toto, une prolongation, à continu, c'est parce que quand tu joues deux matchs en deux soirs puis que tu dois prendre l'avion tout de suite après, il est là le problème en ce moment. On ferme le vestiaire dans quelques instants. Le retour.
On ferme le vestiaire. De retour lundi, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez... L'Étoile Dodge.